belle parole qui existe sur terre et qui est dans notre bouche et qui pénètre le monde. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. Quand les petits t'appliquent, ils cherchent en lui le refuge. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. C'est la plus belle parole qui relève la plus belle parole qui divise le monde. C'est la plus belle parole qui élève la poitrine, qui fait nous relever et aller de l'avant. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. Les bontés de Dieu demeurent éternellement. La plus belle parole qui rapproche ton cœur. Un adversaire qui tend des pièges. Cherche en lui le refuge. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Parole qui refuse dans le ciel. Quand le Seigneur laisse prêcher la parole, il nous dit que nous sommes réconciliés avec lui.
unserem Gott sei Lob, Ehre und Preis.
Ô Seigneur, notre Dieu, soit la louange, l'honneur et la gloire, sa grâce pour le nouveau jour que nous pouvons voir ensemble pour écouter sa parole et la recevoir révélée et trouver notre liaison avec Dieu, car c'est ce qui est le plus important. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi certain que Dieu était en Christ, c'est ainsi que nous devons être en Christ. Père, toi en moi et moi en eux, pour qu'ils soient un. Sentez-vous bien parmi nous. J'ai, il n'y a pas longtemps, dit que nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur n'était pas seulement là où deux, n'est pas seulement là où deux ou trois sont réunis en son nom, mais là où son peuple est réuni en son nom. Cela nous a consolés et fortifiés par cette réalité que le Seigneur, selon 1 Corinthiens 15, a apparu en une seule fois à plus de 500 frères. Et ça, après sa résurrection. Et cela, après sa résurrection. C'est merveilleux de ce que il confirme sa parole. Il a dit, je serai avec vous et je serai en vous et parmi vous et partout où vous serez réunis en mon nom. Je suis au milieu de vous. Et ça, c'est ce dont nous avons besoin. Nous voulons aucune réunion sans le Seigneur. Il faut qu'il soit et il veut être présent. Et s'il est présent, alors il va parler avec nous. Et il va faire encore aujourd'hui toute chose à merveille, comme déjà hier de Marc 7, le verset 37, nous avons lu. Il a fait toute chose à merveille. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous pouvez croire cela? Ne regardez pas aux choses visibles et aux épreuves qui sont presque au-dessus de ce que nous pourrions supporter et de nos forces, mais regardez au Seigneur, regardez à l'invisible. Il est celui qui a donné les promesses et il est fidèle et il les accomplit aussi. Il ne les donne pas seulement, il les accomplit. Les épreuves sont multiples, sont de différentes sortes, mais nous devons parfois venir dans des difficultés pour que nous soyons rapprochés du Seigneur par la difficulté et que nous entrons dans une communion avec lui plus profonde et plus proche. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore aujourd'hui, nous vous souhaitons à tous la bienvenue, particulièrement notre frère Marco Keller de la Colombie-Britannique, qui est ici pour la première fois parmi nous. Où est notre frère Marc Keller? Oui, lève-toi. Ici nous avons ça, c'est le fils de mon ami, frère et sœur Keller, ex-Suisse et maintenant déjà depuis beaucoup d'années en Colombie-Britannique. Nous avons partout des amis, partout nous avons des frères et des sœurs. Hier soir, j'ai déjà mentionné notre frère Jim Chance. Nous nous réjouissons, nous estimons qu'il peut être parmi nous. Parfois, j'en veux un peu au jeune frère qui marie une sœur ici et l'amène dans un autre pays. Pour le moment, je les en veux un peu. J'aurais préféré qu'il reste ici, qu'il vienne ici et qu'il reste ici. Mais la bénédiction de Dieu est avec eux et c'est ce qui est important. C'est ce qui compte. Sentez-vous bien de les frères de la Pologne, par exemple. Où est notre frère de la Pologne qui est ici pour la première fois? Lève-toi, s'il te plaît. Oui, que Dieu te bénisse particulièrement parmi nous et tous de la Tchéquie, de la Slovaquie, de l'Italie, de l'Autriche, de la Suisse, de la France, du Luxembourg, de la Belgique, de l'Hollande, de partout. Que Dieu le Seigneur nous bénisse. Et je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui parlent d'autres langues et qui supportent et doivent supporter que les réunions ici se déroulent en allemand et nous ne pouvons pas changer les choses. Mais nous remercions tous nos frères qui simultanément traduisent et nous savons que Dieu accorde sa grâce pour la traduction. Et nous remercions le Seigneur aussi pour cela, de ce que nous avons ici toutes les langues représentées, présentes ici parmi nous, qui a conduit et qui a voulu les choses ainsi. C'était Dieu, le Seigneur, qui a déjà, avant même le commencement, su la fin de toutes choses, et particulièrement, et c'est la fin de toutes choses, particulièrement quand je suis avec le frère Schmidt et que j'entreprends avec lui les voyages missionnaires dans les pays, dans le monde russe. Alors je remarque comment est-ce qu'il est dans son élément. Personne alors ne peut reconnaître Frère Schmidt. C'est merveilleux. Mais quand nous pensons à quel chemin depuis 1945, par l'effet de la guerre jusqu'aux années 60, il a dû passer par quels problèmes et difficultés il a dû passer de 45 à 60. Et ensuite, le résultat a été qu'il parle un russe d'une meilleure qualité que ceux qui vivent là-bas en russe et qui sont russes. Et nous sommes reconnaissants pour tous nos frères, que ce soit pour le frère Siegfried Fleck et nos frères qui sont assis en haut et qui traduisent. Ils servent Dieu et la parole du Seigneur va dans le monde entier, dans toutes les langues. Et je crois que en ce moment, nous avons dépassé la frontière de 20 langues et nous nourrissons le monde entier. Nous nourrissons le monde entier avec la parole de Dieu et nous en sommes très reconnaissants. Il est même écrit que si nous étions infidèles, il demeure fidèle car il ne peut pas se renier et il ne peut pas non plus nous renier. Tous les fils et toutes les filles de Dieu ont été déterminés à voir la gloire de Dieu. Et c'est peut-être raison que notre Seigneur a donné la promesse qu'il va nous préparer une demeure et qu'il revient bientôt pour nous prendre auprès de lui. Il le dit dans Jean 20, verset 17, je vais à mon Père et à votre Père, à mon Dieu et à votre Dieu. C'est simplement le grand mystère de l'œuvre de la rédemption de notre Dieu, que il nous a agréés et que nous a restitué l'adoption qui nous avait été dérobée de nouveau par la grâce de Dieu. Et en accord avec Galates 4, le verset 4, il nous a, en tant que fils et filles de Dieu, établis dans l'adoption. Bien, mes frères et sœurs, les choses qui, en fait, devraient être mentionnés sont multiples et sur les
que nous devrions venir à parler sans multiples, mais la chose principale est comme déjà hier, nous l'avons lu, Hébreux 4, verset 1. Comme il est écrit ici, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard ou même être resté, comme la parole de Marc 7, verset 37, il a fait toutes choses à merveille. Là où notre Seigneur peut être présent, là, il fait toutes choses à merveille. Et encore aujourd'hui, les regards du monde entier sont fixés sur ces réunions qui se déroulent ici. Beaucoup écoutent et voient les réunions en direct. Et nous voulons aussi saluer tous de loin et de près, oui, dans le monde entier, Dieu à son peuple. Et ce matin, il y a eu encore des appels et des coups de téléphone de l'Afrique du Sud, aussi du Bénin, du frère Rigobert, du frère Graf de la Suisse, la première salutation, les salutations viennent et viennent de tous les frères qui sont liés avec nous, dans la même foi liée avec nous, pas en tant qu'une organisation, mais en tant qu'un organisme vivant du corps de Jésus-Christ. Dans Jérémie 1, nous avons lu, et cela m'a fait constater qu'il est écrit dans Jérémie 1, j'étais établi pour être prophète des nations et qu'un mandat, un envoi, un appel a été accordé à cet homme de Dieu. Et avec Jérémie 1, j'ai pensé à cette parole qui est écrite dans les évangiles. Un prophète ne compte pas dans sa ville et dans sa famille. Regardez ce contraste. J'étais établi prophète des nations et tout ce que je t'ordonne, tu le diras sous mon ordre. Jérémie 1, Jérémie 10, verset, chapitre 1, verset 1, verset 5. Et voilà qu'un prophète, il n'est pas prophète dans sa ville, dans sa famille. Un prophète et un homme de Dieu n'est pas une personne privée. Un prophète de Dieu a été déterminé à révéler au peuple de Dieu, par la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est merveilleux de ce que nous n'avons pas le droit de décider avec Dieu. Et je ne devrais pas mentionner ces choses, mais aussi frère Branham a toujours de nouveau mentionné ses enfants, n'est-ce pas, qu'ils puissent aussi, qu'ils devraient trouver le chemin du Seigneur et marcher avec le Seigneur. Il disait à un moment, Sarah, sa fille, se trouve dans un âge critique et que l'Église puisse prier pour elle. Et alors que j'étais allé une fois manger avec les frères, là-bas, il y a un frère subitement qui m'a dit, la dame que tu vois là-bas servir à la table, c'est la sœur du frère Branham. Et je pensais à moi-même, oui, je suis assis ici dans un beau restaurant et la dame qui sert là-bas à la table est la sœur du frère Branham. Telle que les choses sont en moi, je me suis donc levé, je suis allé vers elle et je l'ai saluée. Bien sûr que chacun a le droit de travailler là où il y a du travail, mais nous ressentons que ce n'est pas automatique que tous, comme ça, sont inclus dans un devoir particulier dans le royaume de Dieu, mais que dans le royaume de Dieu, c'est seulement les lois de Dieu et la parole de Dieu qui ont de la valeur. Pas une affaire de famille, mais la parole de Dieu a de la valeur pour nous tous. Et les décisions de Dieu. Et nous avons hier aussi eu à mentionner les événements des temps. Ils viennent, mes frères et sœurs, et les signes des temps. Et mes viennent, mes frères et sœurs, quand nous regardons dans l'Internet, réellement nous avons tout dans l'Internet, même sur Apocalypse 13, sur le nombre de la bête et le nom, et tout peut être sorti de l'Internet et peut être suivi. Aujourd'hui, nous avons encore rapidement sur ces deux désignations, dogme et dogodismus. Dogodisme. Donc, dogme veut dire opinion et opinion doctrinale, prescription. C'est pour cette raison que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir à faire avec des opinions dogmas. Elle n'a rien à voir à faire avec des prescriptions humaines, avec des doctrines qui ont été, qui sont selon des opinions d'hommes qui ont été inventées et conçues dans des conciles. Mais l'Église du Dieu vivant a seulement à faire avec la parole de Dieu qui demeure éternellement. Et ici est justement l'explication. Doké veut dire, donc, de dogmatisme. Doké veut dire sembler être. Nous n'avons pas besoin de quelque chose qui semble être, mais nous avons besoin de la véracité. Et la parole de Dieu est véritable. Et elle est vraie. Et ici, il est parlé du dogme. Ça veut dire opinion ou alors opinion doctrinale. Donc, que cela semble ou bien être ou bien si c'est une opinion. Si souvent j'ai eu à le dire et aussi dans les grandes réunions dans le monde entier. Je ne suis pas venu ici pour écouter vos opinions et vous n'êtes pas non plus venu ici pour écouter mon opinion. Mais nous sommes tous ici pour écouter ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Et ensuite, frère Branham dit que nous devons être poussés à bout. Il y a même la fin des temps est là et le retour du Seigneur est proche, est devant la porte. Et c'est comme ça que le prince de ce monde est encore parmi les peuples et gouverne et domine, et qu'il a toutes les religions et tous leurs dignitaires sous son contrôle. Et frère Branham, dans cette prédication, que dois-je faire de Jésus, dit, citation, pourquoi, c'est peut-être raison que j'étais toujours contre les religions organisées. Et ensuite, il amène tout cela en relation avec la marque de la bête. Il dit, citation, c'est un gouvernement religieux, car toutes les nations prennent part à cela. Oui, mais le peuple de Dieu, de toutes les nations, ne prend seulement part à ce que Dieu a déterminé et promis pour cette époque et en ce qu'il fait maintenant d'accord avec sa parole. Ensuite, citation, frère Branham dit la chose suivante. L'obligation par les religions et les nations ne va plus leur permettre de le faire, c'est-à-dire il parle de prêcher. Un tel service, comme cela se déroule ici, et de telles choses vont être interdites et un tel lieu sera fermé. Vous ne pourrez plus prêcher la parole de Dieu, vous ne pourrez plus tenir des réunions et prêcher la parole sans la permission du Conseil mondial des Églises et donc les responsables du quartier général. Nous voyons comment est-ce que dans la réalité du mot, cet homme de Dieu avec des yeux de prophète a vu déjà ces choses à l'avance, ce qui va se passer. Et ensuite, encore cette phrase, les protestants ne vont pas, c'est vrai, devenir catholiques, mais ils vont s'unir de manière fraternelle. Et ensuite, on n'ose même pas le prononcer, c'est la marque de la bête. Oui, et aussi de telles remarques, on n'aura pas le droit longtemps encore de le faire. Et c'est peut-être que je demande simplement toujours de nouveau. Lisez dans les prédications de frère Branham. Il était cet homme qui a prêché, reconnaissait le temps et le message. Le message et le messager. Il était celui que Dieu a utilisé pour nous ramener à la chose originale, à l'état primitif de l'Église. Frère Branham, c'était lui qui, en 1933, a vu et a reçu les sept visions particulières. Et il était celui qui, en 1933, avait placé la pierre angulaire pour la chapelle de Jeffersonville. Et avant qu'il place la première pierre du fondement, le Seigneur lui a parlé et lui a dit, lis 2 Timothée chapitre 4. Et il a lu 2 Timothée chapitre 4. Et c'était l'ordre, le mandat qui lui avait été adressé. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Repensant sur Exode avec douceur en insistant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Frère Branham a réellement déchiré cette page de sa Bible et l'a placée sous la première pierre du fondement de sa chapelle. Et il a acheté une nouvelle Bible et il a souligné ce texte dans la nouvelle Bible pour, dans l'endroit et le lieu documenté, qu'avec sa prédication dans cette chapelle, il y a un ordre, un mandat qui y est lié. C'est-à-dire que ce ne sont pas des opinions ou bien des choses qui sembleraient être justes et vraies, mais que la prédication est contenue de la parole de Dieu qui demeure éternellement, qui est véritable et vraie. C'est ainsi que, comme c'était au commencement, c'est ainsi que cela doit être aussi à la fin. Et que les choses doivent demeurer ainsi. Bien sûr que tous n'avons pas de difficulté à croire ce que Dieu, en 1933 et jusqu'en 1965, a fait. Nous regardons avec joie en arrière. Mais si maintenant nous disons qu'il y a eu un frère Frank qui, en 1972, avec frère Barillier, était à Marseille en France et avait prêché. Et si il est dit un soir qu'il y a des frères arméniens qui sont venus à moi à l'époque en 72 en France, à Marseille, et qui m'avaient demandé ce qui concerne les sept tonnerres. Et voilà, je n'avais pas de réponse. J'ai simplement ouvertement dit, je suis désolé, je ne le sais pas. Et je leur ai dit au revoir, et je suis monté dans la chambre au premier étage. Je regarde à cette montre, quand l'expérience était passée, il était 5h05 le matin. La voix du Dieu Tout-Puissant en langue allemande exprimait clairement, mon serviteur, lève-toi et lis 2 Timothée 4. J'ai un peu hésité et avec plus de puissance, lève-toi et lis 2 Timothée chapitre 4. Et quand j'ai commencé du verset 1 jusqu'au verset 5 et que j'avais lu jusqu'au verset 5, j'ai recommencé encore avec le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom. Reprends sans sur Exode avec toute douceur et en instruction. J'ai seulement besoin de relire encore le verset 2. Le verset 1 et le verset 2. J'ai déposé ma Bible et mes mains se sont simplement levés et j'ai dit, bien aimé Seigneur, aussi certain que tu as parlé et que tu m'as ordonné de lire cette parole, aussi certain ce que les sept tonnerres ont dit n'a pas été écrit, n'est pas devenu une partie de la parole que moi j'ai apprêchée. Et je ne veux pas ici rentrer dans les détails. Mais ce n'est que j'avais reçu la réponse que seulement la parole de Dieu a le droit d'être prêchée. À quoi est-ce que toutes ces interprétations la servent, qui semblent être justes, mais qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être justes, parce qu'ils ne sont pas examinables. On ne peut pas les examiner au travers des Écritures. Alors ce que les Écritures ne disent pas, cela n'a pas été dit de la part de Dieu, cela ne sort pas de la bouche de Dieu. Ce que les Écritures ne disent pas, cela ne sort pas de la bouche de Dieu. Et Dieu lui seul en prend la responsabilité, et lui seul sera ce qu'il fera. Encore une citation de Frère Branham importante, et nous reviendrons aux Écritures, aux Saintes Écritures. Dans la prédication, être poussé à bout. Et ici, le cri de Frère Branham, le cri de détresse. Et Frère Branham ici dit que nous devons vraiment être poussé à bout, entrer en détresse, pour que nous puissions vraiment émettre ce cri de détresse, entrer en détresse pour être poussé à bout. Donc, à la page 7 en haut, je veux que vous puissiez penser à moi. Non, qu'il puisse penser à moi, citation, qu'il puisse penser à moi quand il appellera les siens. Tout cela me pousse à vous, pensez à moi, quand il appellera les siens. Tout cela me pousse à bout, et me fait crier d'un cri de détresse, que nous pensons à ce que Paul a dit, après avoir, dans 1 Corinthiens 9, le dernier verset, après avoir prêché l'évangile aux autres, que nous soyons par nous-mêmes reprouvés. Cela pourrait arriver, cela peut alors nous transporter dans un état de détresse quand, après des années de prédication, nous manquions devant lui. Je me tiens devant cette question sincère et véritable. Qu'est-ce qui doit se passer en tant que prochaine chose? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Cela me rend nerveux. Toujours discerner ce qui est bon, parfait et agréable au Seigneur, et de lui être agréable en toutes choses, entièrement agréable. Ça me fait passer par ce bout de détresse, ça me fait être poussé à bout, et passer par les cris de détresse, et me fait passer par des hauts et des bas, car je dois devenir tout à tous pour que je puisse gagner certains pour Christ. Ensuite, il continue et dit, cette citation, vous qui écoutez les cassettes, vous pouvez comprendre dans quel cri de détresse et cette responsabilité devant Dieu me place. Dans quel cri de détresse, dans quelle détresse intérieure cela me place. Et ensuite, les signes de son retour devraient pousser à bout chaque membre du corps de Christ et le placer dans ce cri de détresse. Il s'agit de votre âme et de ce que cette vie suit. Et ensuite, à quoi est-ce que ça nous aiderait, perdirait, de gagner le monde entier et de perdre notre âme? Pour quelle raison est-ce que nous vivons en fait? On pourrait continuer à lire comment est-ce que Frère Branham exprime son propre cri de détresse librement. Les serviteurs de Dieu n'ont pas seulement un mandat, ils ont une responsabilité devant Dieu pour le peuple de Dieu et pour l'Église. Et si
Petrus schreibt,
et si Pierre ou bien alors Paul écrivent à l'Église, c'est toujours avec cette responsabilité qui va au-delà du temps jusqu'à dans l'éternité. Car à quoi est-ce que d'avoir marché nous aura servi si à la fin de notre marche, ou bien à quoi est-ce que ça nous servirait d'avoir reçu la grâce de Dieu? Comme dans 2 Corinthiens 6, il est écrit de ne pas l'avoir reçu en vain. Si nous sommes restés, selon Hébreux 4, verset 1, est devenu trop tard. Et encore peut-être cela, alors que j'ai vu l'enlèvement et que je l'ai expérimenté personnellement, pour vous qui écoutez cela, peut-être que cela n'a pas une signification, mais pour moi, qui l'ai expérimenté personnellement et qui était au premier rang et qui a regardé en arrière et a vu ce troupeau, on ne peut compter, tous jeunes et habillés en blanc et qui avec lui j'ai été enlevé. Et que j'étais au premier rang et que je regardais ce troupeau. C'est quelque chose de merveilleux. C'est une grande expérience. Soyons sincères. Seulement ce que j'avais expérimenté personnellement a une signification personnelle pour nous. Tous les autres, tout le reste, tout ce que d'autres ont expérimenté, par exemple, alors que nous avions lu qu'il a fait toutes choses à merveille, alors il est écrit que les aveugles pouvaient voir et les boiteux pouvaient marcher. Car c'est ainsi que cela était déjà écrit dans le prophète Ésaïe, au chapitre 35, au verset 5 et 6. Que car Dieu, quand Dieu le Seigneur viendra, alors les aveugles verront et les boiteux marcheront. Et la parole s'est accomplie et tous ceux qui viennent au Seigneur, il leur a accordé le secours. Et celui qui ne pouvait pas venir parce qu'il ne pouvait pas marcher, pour lui, quatre hommes se sont levés, ont fait une ouverture par le toit et ils l'ont fait descendre au pied de Jésus. Et alors il est écrit, car il a vu la foi de ceux qui l'ont fait passer par le toit. Il a parlé à la personne qu'ils avaient fait descendre à ses pieds. Bien, mes frères, nous devons exercer de la miséricorde et mettre en pratique l'amour de Dieu. Maintenant, venons à cette pensée que nous voulons rapidement souligner. Réellement, dans la prophétie biblique, il y a les domaines dans lesquels tout a été annoncé à l'avance. Premièrement, pour ce qui s'était passé, ce qui se passerait autrefois, il s'était passé autrefois déjà, c'est-à-dire, alors que quand vous verrez Jérusalem entouré d'une armée, alors que les croyants de la Judée aillent dans les montagnes, s'enfuient dans les montagnes, et dans tous les trois exposés de l'évangile, nous avons les prescriptions pour le temps d'autrefois. Nous devons exactement dire quand est-ce que le temps autrefois a été écrit et aussi ce qui est écrit pour le temps d'autrefois et ce qui est écrit pour le temps d'aujourd'hui et tout considérer et voir dans le contexte correct. Et bien sûr que nous avons aussi la description de la fin des temps de la même manière dans Matthieu 24, et cela à partir du verset 1, et dans Marc 13, la description en général de ce qui va se passer à la fin des temps. Mais ensuite, il y a encore une description directe de ce que le Seigneur a annoncé à l'Église et ce qui va se passer avec l'Église et ce qui va se passer par le déversement du Saint-Esprit. Et là, notre Seigneur lui-même dit, et je voudrais lire ce verset dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, au verset 29, l'Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Donc, dit à l'avance, ce qui va arriver, ça je vous l'ai dit maintenant, pour que quand cela se passe, vous croyez. Par l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est ainsi que nous sommes presque obligés de croire. Il n'y a plus une possibilité de se dévier. Car ici, Dieu l'a dit et ici, l'accomplissement de ces choses sont prouvées. Alors, qui veut pouvoir essayer de dévier cela et d'éviter de croire cela? Et nous avons aussi le chapitre, dans le même chapitre où la chute de Lucifer est décrite, nous avons la grande promesse dans Ésaïe 14, et Ésaïe 14, au verset 26 et 27, nous lisons: voici la résolution prise contre toute la terre. Et cela veut dire que la main étendue, voilà, et cela veut dire la main étendue sur toute, la main étendue de l'Éternel sur toutes les nations. Car l'Éternel des armées a pris une résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Revenons à Ésaïe 14, maintenant le verset 1. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira dans leur pays. Donc, c'est la fin des temps. Israël, encore une fois, il choisira et rétablira dans leur pays, dans le pays de la promesse, les amener dans le repos. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire ce que l'adversaire a commis comme dégât. Et le dégât n'a pas commencé déjà dans le jardin d'Éden. Lucifer s'est déjà élevé au ciel avec cette remarque dans son cœur: je veux, quoi qu'il était au moins. Et ici nous voyons déjà qu'il est sorti de la volonté de Dieu par sa propre volonté. Ici nous avons l'adressement, malgré l'onction. Ici nous avons dans Ésaïe 14 à partir du verset 4. Oh, alors tu prononcera ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: et quoi, le tyran n'est plus, le cochon a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Est-ce que je devrais encore dire quelque chose là-dessus? Qui porte ici la verge des dominateurs? Qui apparaît toujours avec un bâton, avec un sceptre? Je n'ai pas vu, j'ai jamais vu Chirac avec un bâton, non plus Poutine avec une verge de dominateur. J'ai jamais vu encore Bush avec un sceptre. J'ai pas vu avec Schröder un bâton, que quelqu'un comme ça de ces présidents d'État là apparaît avec une verge de dominateur. Mais ici, il est parlé du tyran. Le tyran, il est parlé d'un tyran et de l'oppresseur et de la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivait sans ménagement. On n'a pas besoin non plus de dire quoi que ce soit là-dessus. Ça n'a pas besoin d'éclaircissement. C'est déjà clair. Ça ne semble pas être ainsi. C'était ainsi. Et c'est encore ainsi. Et maintenant, pensez pour un moment, ici, la chute de Lucifer, justement après cela, est décrite. Ici, la rébellion dans la gloire est décrite à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur: je monterai au ciel j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, etc., etc. Et nous lisons à l'extrémité du centurion, du septentrion. Et nous parlons, nous entendons donc d'un homme qui aussi s'élève au-dessus de tout ce qui est Dieu et qui conduit à Dieu dans Deutéronome chapitre 2. Et nous avons de nouveau la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous voyons comment est-ce que l'adversaire, dans la chute de l'homme, a emporté toute l'humanité. Seulement celui qui a personnellement expérimenté la grâce de Dieu pourra discerner toute la tromperie qui, particulièrement dans le domaine religieux et de manière très pieuse, d'apparence pieuse domine la terre. Et même car les dominateurs terrestres ont eu tout leur temps. Et il y a eu des changements dans le domaine politique, mais dans le domaine religieux, la dictature est aussi émise et tous sont rendus esclaves depuis le commencement des différentes religions jusqu'à la fin. Tous sont nés dans les différentes religions et sont toute leur vie rendus esclaves dans et avec les religions jusqu'à que bien sûr cela soit trop tard. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé sa parole pour encore une fois dans le monde entier faire retentir le message et pour encore une fois faire la différence entre l'Église du Dieu vivant et entre le troupeau des prémices, des premiers-nés qui ont reçu la grâce de Dieu et qui, avant même la fondation du monde, ont été élus, et entre toute cette formalité qui est faite et cette diplomatie qui est faite dans toutes les religions. Depuis quand est-ce que Dieu est dans une religion? Depuis quand? Dieu s'est seulement personnellement révélé en Jésus-Christ, notre Seigneur, en tant que sauveur. C'est seulement lui qui pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père, et personne vient au Père que par moi. Donc, la prédication doit apporter de la clarté, c'est-à-dire à tous les hommes sur terre. Extérieurement, vitrestement, on souhaiterait à chacun le meilleur, n'est-ce pas? Et ça, nous le faisons toujours encore. Mais, on souhaiterait à tous le meilleur. Mais, ce serait encore à souhaiter que à tous il soit dit, comme à Marie, tu as choisi la meilleure part. Dieu veut des hommes qui au milieu de toutes ces différentes voix qui se font entendre dans le domaine religieux, qui puissent discerner sa foi, la voix du bon berger. Et nous avons, dans les Saintes Écritures encore, des instructions. Et avant que nous revenions dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4 pour le verset, je voudrais encore aller dans Ésaïe 14, le verset 26, encore une fois. Le verset 26 et 27. Voici la résolution prise contre toute la terre. Et cela signifie la main étendue du Seigneur sur toutes les nations. Sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris une résolution ou bien un plan, a fait un plan. Qui veut s'opposer ou bien qui veut empêcher son accomplissement? Sa main est étendue. Qui la détournera? Non, ici, nous venons à ce point important. Même si la main de l'Éternel est étendue, nous pouvions des milliers de fois relire que le bras de l'Éternel est élevé, la main de l'Éternel conserve la victoire selon le psaume 118. Ça, c'est seulement écrit. Mais est-ce qu'elle conserve la victoire aussi dans ta vie et dans ma vie, sur le vieil homme, sur notre volonté? Est-ce que ta main est aussi détendue sur toi et sur moi pour accomplir en toi ce qu'il a résolu? Selon Job 23, de répéter des versets bibliques, cela ne sert à personne. Ce qui est écrit dans la Bible doit en nous être répété, être lu. Nous devons devenir une lettre lue. Quand il s'agit des promesses qui sont écrites dans la Bible, c'est seulement après que nous avons l'expérience personnelle et la confirmation divine que nous sommes dans le bon bateau avec le Seigneur, comme c'est écrit dans Job 23, verset 13. Ésaïe 14, verset 26, verset est à lire avec Job 23, verset 13. Le verset 14 aussi, Job 23, verset 13 et 14, et particulièrement dans toutes les différentes émissions de télévision, aussi en langue anglaise et en langue et dans d'autres langues, nous avons eu toujours ce sujet, le retour de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ et l'accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Et ensuite s'ajoute à cela l'appel à sortir et la préparation de l'Église épouse pour le jour glorieux du retour de notre époux. Seulement une parole dans l'Ancien Testament pour nous montrer ce qui doit se passer avec l'épouse de laquelle notre Seigneur, déjà dans l'Ancien Testament, parlait et disait « Je me fiancerai avec toi ». Nous le lisons dans Osée, le chapitre 2, à partir du verset 21. Osée, chapitre 2, verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice et la droiture, dans l'amour et la miséricorde, la grâce et la miséricorde. Donc, pas comme ça. Des fiançailles liées à une condition. Si tu fais ceci, alors je ferai cela. Non, mais dans l'amour, dans la grâce et la miséricorde. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a fait grâce, nous a fait miséricorde, nous a aimés, il nous a acceptés. Et par la foi, en l'œuvre accomplie de la rédemption, sur la croix à Golgotha, c'est ainsi que nous sommes déclaré juste, et la justice est désignée justice de Dieu dans l'épître aux Romains. Ici, nous avons maintenant encore la prochaine pensée, la pensée suivante, au verset 23 de Osée 2. À ce jour-là, j'exorcerai, dit l'Éternel. J'exorcerai, dit l'Éternel. Maintenant, suivre. D'abord, fiancé avec toi dans la fidélité, dans la droiture, dans la justice, dans l'amour, dans la grâce, dans la miséricorde. Et ensuite, j'exorcerai, dit l'Éternel, j'exorcerai les cieux, et les cieux exorceront la terre. Donc, avant que la parole trouve son accomplissement, puisse trouver son accomplissement en Israël, il faut d'abord qu'elle trouve son accomplissement dans l'Église. Car Jean a dit concernant l'époux, car il était lui, Jean-Baptiste, l'ami de l'époux, qui avait préparé le chemin de l'époux pour que époux et épouse soit joint et conduit ensemble par son ministère. Et comme nous l'avons dit et nous disons dans le monde entier, aussi certain que le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques, que Dieu allait envoyer un prophète avant que le jour du salut, avant que le temps de la grâce vienne. Et ça, il a fait. Cela est à lire encore une fois. Et que Dieu soit loué dans l'évangile de Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans l'évangile de Jean. Que Jean le Baptiste était l'homme en qui les promesses d'Ésaïe 14, 40, verset 3 et Malachie 3, verset 1 ont trouvé leur accomplissement. Il est allé dans l'esprit et dans la puissance de l'esprit d'Élie et il n'a pas ramené les têtes et c'est là que c'est dans la tête qu'il y a des discussions. Et Dieu n'a pas besoin de discussions. Dieu a besoin de cœurs dans lesquels il peut placer sa parole et la faire devenir une révélation par son esprit. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Luc 1, verset 16 et 17, n'est-ce pas, que il ramènera les cœurs des pères aux enfants et pour que le Seigneur ait un peu de disposé. Bien, mes frères et sœurs, si nous croyons que maintenant nous vivons à la fin des temps, et que le retour du Seigneur Jésus-Christ est devant la porte. Nous devons donc nous tenir à la parole de Dieu et croire les paroles, les promesses pour cette époque. Laissez-moi vous dire cela. Seulement celui qui croit les promesses que Dieu a données et les porte en lui va, selon la promesse, par la puissance de Dieu, va être porté dans l'accomplissement de ce que Dieu a promis. C'est ainsi qu'on n'aura plus besoin depuis longtemps encore de discuter, mais de remercier le Seigneur de ce qu'il a envoyé un prophète. Avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, avant que le soleil se transforme en ténèbres et que la lune en sang et que les étoiles tombent des cieux, avant que la colère de Dieu et que les jugements de Dieu frappent cette terre et que tous les méchants et les incroyants avec les dignitaires et les grands et les chefs et tous les rois de la terre et les chefs militaires diront montagne, colline, couvrez-nous, tombez sur nous, etc. Donc, nous croyons avec conviction qui est fondée sur les Saintes Écritures que Dieu, à la fin du temps de la grâce, de nouveau, rétablit toutes choses dans l'état primitif, doit le faire et que maintenant les cœurs des enfants de Dieu doivent être retournés à la foi des pères. Que malheureusement, il soit dit, au lieu d'exécuter cet ordre, ce mandat qui est dans les promesses de Dieu pour cette époque, au lieu de le recevoir dans leur cœur et de le laisser tel qu'il a été donné, non, ils ont fait de ce ministère prophétique des nouvelles doctrines, des nouvelles, et cela semble ici, et là, être ainsi, et là, non. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec les choses qui semblent être ainsi? J'ai besoin de la parole de Dieu en tant qu'une lampe sur mon sentier, en tant qu'une lumière sur mon chemin, et que cela aussi soit dit dans l'amour. Complètement à la fin, l'Église épouse sera un seul cœur et une seule âme. Car c'est ce que Dieu dit par le prophète Jérémie et par le prophète Ézéchiel. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Pas des pasteurs qui se sont paix eux-mêmes et qui ont foulé de leurs pieds l'eau. Des brebis, mais des pasteurs qui sont liés avec le grand berger qui a donné sa vie pour les brebis. S'il vous plaît, conservons cela, cette parole dans notre cœur. Dans le temps, alors que s'accomplissait que Dieu fera une nouvelle alliance avec nous et qu'il a rétabli la relation entre époux et épouse et qu'avec nous, il est entré dans le fiançailles avec justice, droiture, grâce et miséricorde. Une épouse, c'est la fiancée. C'est la fiancée. Et c'est ainsi que nous avons ici la remarque de ceux qui ont reçu les fiançailles avec l'époux, qui ne font pas seulement des paroles, mais qui expérimentent. Le ciel va exaucer la terre. Alors ça veut dire que le ciel descend sur terre et des choses surnaturelles ont lieu par la grâce de Dieu en ceux qui croient la parole de l'heure et qui l'ont reçue. Et qui l'ont accepté. Bien, mes frères et sœurs, encore un regard dans le Nouveau Testament, Hébreux, chapitre 3, sans que nous répétions encore ce verset d'Hébreux 4, verset 1, sans l'oublier que, comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 4, verset 1, qu'aucun de vous ne paraît être resté ou bien être venu trop tard. Nous pensons à la parole de notre Seigneur dans Matthieu 24. L'un sera pris et l'autre sera laissé, même dans un même lit. Dans la réalité, cela sera très serré, très étroit. Il n'y a pas de d'autres possibilités. Il n'y a plus de possibilités pour jouer. Que celui qui appartient à l'épouse écoute la voix de l'époux. Et la voix de l'époux, ce ne sont pas des citations et des interprétations et des doctrines, mais c'est la parole de Dieu dans sa forme originale. En ce que l'Esprit de Dieu vit la lettre, les Écritures, car l'époux est la parole, et l'épouse doit devenir parole. Maintenant, dans Hébreux 3, verset 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, oui, ici nous lisons subitement plus la parole de Dieu, mais c'est pourquoi, selon ce que dit la parole du Saint-Esprit. C'est en amont, la parole de l'Esprit. Aujourd'hui, si vous entendez ta voix, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, la parole du Saint-Esprit, la parole du Saint-Esprit, c'est la parole qui a été révélée par le Saint-Esprit, contenant les promesses déterminées pour l'époque dans laquelle on vit. Ce n'est pas seulement une lettre, mais c'est une lettre vivifiée, une parole vivifiée par l'Esprit de Dieu qui touche notre cœur. Et que nous recevons dans notre cœur, et que alors nous mettons en pratique ce que notre Seigneur nous ordonne. Et justement, c'est après cela qu'il est dit au verset 8, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Bien, nos frères et sœurs, si à cet endroit nous croyons, et cela avec conviction, que l'appel et les expériences que frère Branham, depuis le jour de sa naissance, pouvait mentionner de toutes les expériences surnaturelles sur lesquelles il n'avait pas non plus d'influence, mais qui avaient un grand impact sur lui, une grande influence sur lui, car toute expérience avec Dieu a un impact particulier sur celui qui les reçoit, celui qui les fait avec Dieu. Et si nous posions la question à ces 4000 personnes, desquelles j'en ai rencontré entre 10 à 12 personnes, personnellement à Jeffersonville, qui en 1933 étaient présents, je les ai rencontrés en 1976, qui réellement étaient des témoins oculaires, qui ont vu de leurs propres yeux que la lumière surnaturelle est descendue sur la tête de frère Branham. Et la voix est descendue sur frère Branham. La voix a été adressée à lui, pas aux 4000 personnes et plus qui étaient présentes. Et la voix a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message. Tu seras précurseur du retour du Christ. C'était plus de 42 ou bien 44 fois où frère Branham insiste et dit, ce n'est pas moi, mais le message, c'est lui qui sera précurseur du retour du Christ, qui ira dans le monde entier avant le retour du Christ. Qu'est-ce que nous avons vu après le retour à la maison de frère Branham, après l'ensevelissement, le 11 avril 1966, nous avons, Dieu soit loué, pas seulement apporté le message en Europe, mais dans le monde entier, nous avons eu la grâce de porter ce message. Maintenant, j'ai lu dans les articles de journaux qu'en 1976, j'avais déjà visité 86 pays, déjà en 1976, et apporté le message divin dans le monde entier. Parce que c'était un ordre divin qui était présent et adressé à notre personne. C'est peut-être que nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous regardons à l'origine, nous regardons aux promesses, nous sommes attentifs exactement à la manière avec laquelle l'ordre a été donné. L'ordre est présent, mais nous faisons attention à la manière avec laquelle l'ordre a été donné. Nous ne sommes pas en train de répéter quelque chose et de dire que frère Branham a dit ceci et cela. Non, si nous répétons ce que frère Branham a dit et disons, oui, il a dit ceci, il a dit cela. Nous sommes dans le danger de mal comprendre ce qu'il a dit et d'interpréter. Par exemple, Matthieu 28, s'il est écrit, il baptisait l'air dans le nom, au nom, ou bien dans le nom, alors il n'est pas écrit et utiliser une formule de trois titres. On doit toujours exactement être attentif à la manière avec laquelle les Saintes Écritures disent quelque chose. Pas seulement de savoir que les Saintes Écritures disent quelque chose, mais de savoir comment est-ce que c'est écrit. Comme il est écrit, par exemple, dans Daniel chapitre 9, verset 12. Sois attentif à ma parole pour que tu puisses comprendre la révélation. Le temps est là où nous ne devons pas seulement lire ce qui est écrit dans 2 Pierre, par exemple, au chapitre 1, qu'une prophétie ne permet pas une interprétation particulière. Mais le temps est là où, dans la réalité, nous devons mettre cet ordre en pratique, qu'aucune prophétie des Écritures ne permet une interprétation particulière. Mais nous avons aussi eu la grâce et nous observons à l'accomplissement de la prophétie. Et je l'ai dit toujours de nouveau, et cela dans le monde entier, le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement des prophéties, des promesses bibliques. Jean-Baptiste était un prophète promis. Jésus-Christ, notre Seigneur, le Messie promis. La semence promise, le Rédempteur promis, depuis le jardin d'Éden déjà. De Genèse 3, verset 15, que la semence de Dieu viendra et brisera la tête du diable. C'était Daniel 9, verset 23. Et les promesses sont accomplies tous. Et les docteurs de l'époque, les rabbins, se sont assis sur la chair de Moïse. Donc ils se sont un peu élevés devant le peuple. Et ils ont enseigné comme si Dieu n'avait rien fait dans leur effort. Non, le mystère dans l'époux consiste justement à ce que Dieu reconnaît. Ce que l'époux fait, ce qu'il dit, et ce qui se passe dans le présent sur terre, de la part de Dieu. L'appel à sortir, et le rétablissement de toutes choses. Et le Seigneur dit, quand je serai élevé de la terre, alors j'attirerai à moi tous les enfants de Dieu éparpillés. Que cela ait lieu, que notre Seigneur, pas seulement sur la croix, a été élevé entre le ciel et la terre et mouru, mais qu'il a été élevé et qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, dans lequel tous genoux se fléchiront. Si pour nous il a été élevé sur la croix, alors il a été aussi, après sa résurrection, enlevé pour nous. Il est monté au ciel pour nous. Tout a eu lieu pour nous. Et nous attendons qu'il revienne. Mais maintenant, ici est le point. Nous devons réellement, nous-mêmes, être morts avec Christ. À quoi est-ce que ça sert de pouvoir dire, ou bien de répéter, ce que Paul, dans Galates 2, à partir du verset 19, a dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis au verset 20, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est tous, dans notre vie encore, nous vivons nous-mêmes. Cela n'a plus le droit de demeurer ainsi, de rester ainsi. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire grâce que la volonté de Dieu dans notre vie, par la grâce de Dieu, se passe. On peut même aller dans 2 Corinthiens chapitre 5, où Paul parle du ministère de la réconciliation. On peut aller dans Philippiens, où il est écrit qu'il a dépouillé les puissances et qu'il a vaincu sur eux, Colossiens 2, verset 14, et que la victoire de Dieu sur la croix à Golgotha a eu lieu. À quoi est-ce que ça sert si la victoire de Dieu en toi et en moi n'est pas manifestée? À quoi est-ce que ça sert si un homme de Dieu peut dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie par moi. Alors, nous avons la réconciliation et le pardon qui a la première place et a encore sa valeur aujourd'hui. C'est écrit dans le Notre Père. Si vous ne pardonnez pas, alors vos péchés ne seront pas non plus pardonnés. Si nous prétendons que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous, alors nous devons pouvoir pardonner et vivre dans la réconciliation les uns avec les autres. Et il est écrit aussi dans Romains 15, recevez-vous les uns les autres tels que Christ, tel que Dieu nous a reçus en Christ. Encore aujourd'hui, à sa valeur, Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même, a ôté le mur de la séparation, a ôté l'inimitié. Si nous prétendons que ce n'est plus nous qui vivons et que c'est Christ qui vit par nous, alors, là il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de rédemption. Là où il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de pardon. Donc, c'est ainsi que nous devons revenir à la Bible, nous devons revenir aux traces de notre Seigneur, nous devons revenir à ce que nos frères dans l'Église primitive, nous devons revenir aux expériences qu'ils ont faites dans l'Église primitive pour que la vie de l'Église soit aujourd'hui aussi manifestée telle qu'elle était au commencement. Si Paul écrit que l'homme naturel ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, un chrétien, Dieu, car c'est pour lui, l'homme animal. Alors il faut que, c'est pour lui une folie, il faut que d'abord l'homme animal naître de nouveau pour une expérience vivante. Une chose comme ça d'apparence pieuse ne suffit pas non plus d'être en train de parler du message ou bien du messager. Ça ne sert à personne. C'est seulement dans la tête. D'abord, il faut que la relation de notre cœur avec Dieu soit rétablie. Et si tu prétends être en relation avec Dieu et que tu n'es pas en relation avec ton frère, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu soit loué de ce que c'est lui qui a rétabli la relation avec nous, pour que nous puissions aussi avoir cette relation rétablie entre nous, avec lui. Et la relation les uns avec les autres exprime la relation que tu as avec Dieu. Le chemin de Dieu à nous est notre chemin à Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il y a seulement un seul dans lequel le salut, la rédemption et la réconciliation et tout ce que Dieu nous a accordé est contenu. Et si quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle création. La réconciliation, la rédemption, tout est manifesté dans sa vie. Là où il y a de l'inimitié, là où il y a de la haine qui est manifestée. Alors s'il vous plaît, je vous demande, où est alors la rédemption? Où est le salut? Où est le pardon? Où est la réconciliation? Non. Les gens se trompent eux-mêmes. Nous devons revenir à Dieu et à sa parole. Pourquoi est-ce que les prédications sérieuses sont apportées? Parce que nous vivons justement dans les dernières phases, et cela avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, nous allons expérimenter de quelle manière Dieu joint son peuple dans l'union parfaite. Comment est-ce que dans la restauration de toutes choses, nous allons venir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu? Nous serons conduits dans ces choses. C'est ainsi que nous allons parler la même langue et le même esprit révèle les mêmes choses. Et c'est ainsi que nous aurons part à, réellement à ce que Dieu fait. Je veux rapidement encore lire les versets d'Hébreux 3. Toujours de nouveau, insister là-dessus aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sa voix, c'est sa parole qui est adressée à nous. Et comme au verset 7, au chapitre 3 d'Hébreux, nous avons lu, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, pourquoi est-ce qu'il est écrit cette fois dans Apocalypse 2 et 3 que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Les hommes de Dieu nous apportent la parole de Dieu, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous la révèle. Et ensuite, c'est ainsi que nous sommes apportés dans cette communion personnelle avec Dieu. Pas par un médiateur. Il n'y a seulement qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2. Et ça, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Les plus grands hommes de Dieu étaient des indicateurs. Et si nous allons dans Apocalypse 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, et que nous lisons, là, il est écrit que Dieu, par un seul serviteur, révèle à ses serviteurs et leur fait recevoir ce qu'il a à dire à son peuple. Dieu utilise toujours une bouche par laquelle il parle. Mais ce qui a été dit est déterminé à tous les serviteurs de Dieu qui ont le devoir de prêcher la même parole. Car aussi ce serviteur, c'est pour cette raison, est dans le même esprit. C'est pour cette raison que la parole de Matthieu 24, à partir du verset 45 jusqu'au verset 47, est importante. Et peut-être que cela pourrait vous faire tomber des chaises. Mais moi, frère Frank, j'ai entendu cette parole à Edmonton, dans la rue 120, un matin, tôt le matin, alors que j'étais en train de vouloir prendre ma Bible du bord de mon lit, déjà habillé, prêt pour le jour. Je m'étais déjà préparé pour le jour. Je suis seulement allé au bord du lit pour prendre ma Bible. Et le soleil brillait dans la chambre. Et tel que vous entendez ma voix, mon serviteur, je t'ai appelé selon Matthieu 24, verset 45 au verset 47, pour distribuer la nourriture. Qu'est-ce que je dois dire à cela? Je n'ai jamais demandé cela. Je n'ai jamais su que cela allait se passer comme ça. Jamais dans ma vie. Il n'y a aucun homme de Dieu qui pourrait demander à Dieu un appel, ou bien qui demanderait à Dieu un appel. Les appels sont des décisions de Dieu dans lesquelles aucun homme ici a une influence, ou bien le droit de dire quoi que ce soit, ou bien de décider quelque chose avec Dieu. Non. C'est ainsi que à tous les frères dans le ministère, dans le monde entier, il y a des hommes qui remercient Dieu de ce que, autant que maintenant, il y a des ministères de la parole dans le monde entier qui remercient Dieu de ce que, au temps convenable, la nourriture adéquate leur a été accordée pour qu'ils puissent servir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée dans ce temps présent, et que le peuple de Dieu soit nourri. Et nous remercions Dieu de ce qu'il est encore assis sur son trône, et que nous vivons dans le temps de l'achèvement, et que des prophéties bibliques dans tous les domaines s'accomplissent, et que le Seigneur aujourd'hui nous dirait réellement: heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Sauvés sont vos yeux, sauvés sont vos oreilles, parce que beaucoup de justes et de prophètes ont voulu voir et entendre ce que vous voyez, ce que vous entendez. Bien, mes frères et sœurs, le plus grand moment de toute l'histoire du salut et de toute l'histoire de l'Église du Nouveau Testament a commencé. Et le Seigneur conduit son peuple dans toutes sortes de prisons à sortir dans la liberté des enfants de Dieu. Et ça, c'est la liberté que le Seigneur nous a accordée. Encore une parole ici où l'obéissance et la désobéissance sont placées en face l'un de l'autre. Hébreux 3, verset 18. Hébreux 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À cause de leur incrédulité. L'incrédulité attire la désobéissance et conduit dans la mort, ou bien dans la chute, ou bien dans l'apostasie. Et la foi nous fait sortir et de la désobéissance et de l'incrédulité, et nous place sur un fondement biblique. Et c'est ainsi que nous savons, ici cela est écrit dans la parole de Dieu, et c'est ainsi que cela s'accomplit devant nos yeux. Donc, l'accomplissement des prophéties bibliques, l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé à l'avance pour la fin des temps, pour Israël, pour l'Église, pour les nations. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous devez permettre, vous devez entendre l'Esprit de Dieu par la parole de Dieu. Vous pouvez fermer vos yeux et ouvrir vos cœurs et dire, Seigneur, parle avec nous, ton peuple écoute. Et nous sommes aujourd'hui ici pour écouter. Nous sommes aujourd'hui ici pour accepter la correction. Nous sommes aujourd'hui ici pour prendre au sérieux la description du chemin. Et nous sommes aujourd'hui ici pour nous laisser dire de la part du Seigneur. Et ça, je vous le dis à tous à haute voix, que qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Être resté. Pour tous qui ne vont pas à la rencontre de l'époux, ce n'est pas une grande catastrophe, selon Matthieu 25. Mais pour tous ceux qui vont à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire qui croient au message de la fin des temps, et malgré tout ne se soumettent pas sous la main puissante de Dieu, et ne se soumettent pas à l'ordre dans la Bible, et ne respectent pas les Écritures. L'Église n'est pas comme ça un marché, n'est pas comme ça des gens qui sont comme ça mis ensemble. Simplement, non. L'Église est le corps du Christ racheté précieusement et qui sont joints, s'il vous plaît, par le Saint-Esprit. Alors, fini avec la désobéissance. Nous ne pouvons pas faire ce que nous pensons être juste. Fini avec la désobéissance, avec l'incrédulité, avec nos propres chemins, nos propres pensées, notre propre vie, notre propre enseignement, nos propres doctrines, nos propres opinions. Et nous devons nous soumettre à l'ordre de Dieu dans sa parole, selon les déroulements de l'histoire du salut dans lequel nous sommes maintenant aussi arrivés. Pensez à Ésaïe 14, où la chute de Lucifer est décrite. Et pensez à ce que Dieu a dit après la chute. Si moi, j'ai une résolution, je fais une résolution, et mon bras est déjà détendu, est en train d'accomplir cette résolution, qui peut s'opposer? Qui peut l'empêcher? Dieu exécute son opinion, ce qu'il a résolu.
Nous n'avons pas besoin de regarder aux années 79 et à ce qui s'est passé après. Nous regardons dans le futur et nous disons, le Seigneur va achever toutes ces manières merveilleuses et les siens écoutent sa voix et vont se soumettre à la parole de Dieu. Une parole adressée à tous ceux qui veulent se laisser baptiser. D'abord, c'est la repentance, la conversion, la foi et ensuite suit le baptême. Et les Saintes Écritures disent dans Actes des Apôtres au chapitre 2 au verset 41 que tous ceux qui ont reçu sa parole qui ont accepté ta parole, se sont laissés baptiser. Cela est en accord avec Marc 16, verset 16. Celui qui croit et qui se laisse baptiser sera sauvé. Cela est en accord avec Actes des Apôtres, le chapitre 10, où Pierre aussi, pour ceux qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, d'esprit et de feu, il a ordonné qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ, du baptême d'eau. Il y a même des gens qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit qui disent que si Dieu ne m'avait pas rempli du Saint-Esprit, alors je me serais laissé baptiser. Mais puisque je suis baptisé d'esprit et de feu, et avec cela, j'ai la confirmation déjà que le bon plaisir de Dieu se repose sur moi. Le baptême du Saint-Esprit est en relation avec l'œuvre de la rédemption. Dans l'Ancien Testament, c'était le sang. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang, la parole et l'esprit. Et ces trois sont unis et rendent témoignage de la même chose. Personne n'a le droit de venir encore avec des arguments. Le temps d'argumenter est pour toujours passé. Celui qui veut croire Dieu, qui puisse croire maintenant. Et celui qui veut obéir à Dieu maintenant, qui puisse obéir maintenant. Et qui puisse prendre sa décision et aller le chemin étroit qui mène à la vie. Qui mène à la vie, qui mène à la vie éternelle. Oui, au portant en perles. Loué et exalté soit le Seigneur. Le Dieu tout puissant. Qui parle avec nous dans son amour. En amour. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'un seul de nous reste ou bien soit venu trop tard, mais que tous soient préparés et que le ciel puisse exaucer la terre en tous ceux qui sont fiancés avec lui et avec cela forme, en cela forme l'épouse, l'église épouse. Dieu a exaucé le ciel en Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui a dit que dans le livre, dans le rouleau du livre, il est écrit, je suis venu au Dieu pour faire ta volonté, au Dieu. Et dans sa volonté, il faut que notre volonté soit. Et c'est ainsi que Dieu va lui-même faire le reste. Lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul vrai Dieu, à lui seul l'honneur, la louange, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous nous levons pour la prière. Peut-être que nous chantons un chœur ensemble. Qui propose un chœur? Peut-être, merveilleux, merveilleux, Jésus est le Seigneur.
Jesus ist der Herr, wunderbar, starker Gott, Friede Fürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir sich gebracht. Und vielleicht singen wir noch, oh, ich möchte schauen.
Peut-être encore, oh, je voudrais voir.
Ich möchte schauen. Als seit Jubel preise, seit mir rettet hat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da. Singen wir noch so wie ich bin, so muss es sein.
Chantons encore tel que je suis sans rien de moi.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei. O Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Während wir die Häupter neigen,
pendant que nous couvrons les têtes et persévérons dans la prière, et ouvrons notre cœur dans la présence de Dieu, nous pensons à cette promesse. Je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Je vous donnerai un nouveau cœur et un nouveau esprit, une nouvelle vie. Que cela devienne vrai. L'alliance est faite, a été faite sur la croix, à Golgotha. Notre Seigneur a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui a coulé pour vous, son sang, le sang de l'agneau de Dieu a coulé pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, acceptez la rédemption, acceptez le pardon, acceptez Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel, selon la parole des Écritures. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, selon la parole de l'Écriture. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire à tous ceux qui croient en son nom. Ne pensez pas que ce sont des amis qui vous le diront. Ne pensez pas à ce que vos amis diront, à ce que vos camarades de l'école diront, ou bien à ce que vos collègues du travail diront. Ne pensez plus à ce que les hommes diront de votre décision. Notre Seigneur dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père céleste. Bien-aimés amis, particulièrement tous ceux qui consciemment n'ont pas encore consacré leur vie à Dieu. Dieu le Seigneur qui puisse vous accorder à cette décision pendant ce moment la force nécessaire. Reconnaissez que tous nous sommes perdus et séparés de Dieu, sans vie éternelle, de nature, nés dans ce monde, et pensez que Dieu nous a accordé la vie éternelle en Jésus-Christ, son Fils unique, son Fils seul engendré de lui. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Le temps est sérieux, l'éternité est longue, et maintenant nous allons courber les têtes et persévérer dans la prière. Je voudrais d'abord demander combien veulent aujourd'hui, alors que vous entendiez sa voix, aujourd'hui et ici, prendre votre décision pour le Seigneur, entièrement pour Jésus, entièrement pour lui. Notre volonté doit être dans sa volonté pour que la volonté de Dieu soit faite. Pas ce que je veux et pas comme je le veux. Combien sont ici qui veulent lever leurs mains et être inclus dans cette prière, lever courtement les mains. Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse partout, partout, les mains se lèvent. Les mains se lèvent partout. Nous avons la certitude que celui qui vient au Seigneur, il ne le rejette pas. Il accepte. Il accepte aujourd'hui. Il accepte aujourd'hui. Nous allons tout de suite prier. Maintenant la question, combien sont ici qui veulent se laisser baptiser, bibliquement, se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Levez courtement vos mains, levez rapidement vos mains, plusieurs sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le baptême aura lieu de toutes les manières à la fin de cette réunion. Nous avons toujours des baptêmes. Chaque dimanche, un baptême peut avoir lieu. Et nous avons aussi mis dans le cœur de tous de consacrer leur vie au Seigneur, à Dieu, et de faire un bon commencement pour qu'une fin véritable soit garantie. Et que le Seigneur lui-même, c'est lui qui doit être celui qui a suscité la foi et qui l'a rendue parfaite. Et là où il a commencé son œuvre, en suscitant la foi, c'est un bon commencement. Et cela nous ramène au commencement, au modèle de l'église primitif. C'est ainsi que Dieu a commencé il y a 2000 années d'ici, et Dieu, c'est ainsi qu'il achèvera son œuvre aujourd'hui. Nous pouvons, sur le fondement de l'autorité de la parole de Dieu, dire que tous ceux qui, en accord avec les Écritures, croient, qui croient comme les Écritures, vont aussi comme les Écritures font leurs expériences. Celui qui croit comme dit la Bible aura des expériences comme le dit la Bible. Et nous avons la grâce de pouvoir dire, si vous croyez, vous pouvez repartir à la maison. Selon ce que vous avez cru, il vous sera accordé. Il est fidèle et sa parole nous a été accordée pour nous montrer ce qu'il a préparé pour nous. Alors nous l'écoutons et nous le croyons et nous l'expérimentons. Nous expérimentons ce qu'il a préparé pour nous. Sur le fondement de l'autorité de la parole, il peut être même dit que tous ceux qui, de tout leur cœur, invoquent le nom du Seigneur, expérimentent à l'instant même leur salut. Dites Amen. Dites Amen. De la même manière, c'est la même chose avec la guérison. Acceptez votre guérison. Ne regardez pas aux circonstances et aux symptômes de la maladie. Dans ces maîtres sûrs, vous êtes guéri. Ça, c'est l'autorité de la parole. Dieu n'a pas confirmé les apôtres, il a confirmé sa parole que les apôtres ont prêché. Et de la même manière, c'était aussi dans notre temps. J'ai regardé de mes propres yeux comment est-ce que des nés aveugles ont vu. J'ai regardé comment est-ce que les jours de la Bible devant moi se déroulaient. Et comment est-ce que les actes des apôtres devant mes yeux ont eu lieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Je voudrais encore une fois dire cela. Cela ne semble pas seulement. Cela est ainsi. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Et maintenant, nous remercions ensemble. Nous levons nos mains, celui qui veut, et nous remercions le Seigneur ensemble. Seigneur fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole, pour ta parole, pour ton action parmi nous, dans notre cœur. Seigneur notre Dieu, tu as placé ta parole sur le chandelier. Nous avons la parole de l'Esprit et les promesses, nous les avons reçues. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons, nous te remercions. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et que tout le peuple dise Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons reprendre des salutations en Israël. Dieu voulant, nous irons demain à Tel Aviv. Nous atterrissons demain à Tel Aviv. Et nous reviendrons dans deux semaines, et Dieu voulant, samedi, je serai ici dans 14 jours, samedi, et ensuite je serai dimanche à Bruxelles, Dieu voulant. J'essaye de partager les invitations. Comment est-ce que cela est possible avec le temps? Mais j'ai une demande à vous tous. Parlez de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Mais ne le faites pas avec votre intelligence intellectuelle, avec votre tête, mais faites-le dans la foi, pas avec la réflexion, mais sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, de tout votre cœur, dites ce que Dieu a dit. Rien d'autre. Pour que nous puissions réellement, de la chute, être entièrement transporté dans ce que Dieu a accompli pour nous. La désobéissance suivie d'incrédulité était la destruction d'Israël et la destruction des croyants dans tous les différents âges. Mais la foi a été dans tous les différents âges ce que Dieu a béni et a honoré depuis Abraham. Tous ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu ont cru ce que Dieu a dit dans leur époque, pour leur époque, et étaient et ont été justifiés par la foi. Et ensuite a suivi seulement les œuvres en tant que résultat de la foi. Et soyez bénis, particulièrement de tous les pays voisins, particulièrement tous ceux qui d'une manière nouvelle s'ajoute. Nous voulons aussi que les chauffeurs donc du bus de la Slovaquie soient bénis, et que tous ceux qui sont venus pour la première fois ont été bénis, et que personne est trouvé en la sorte de la prédication et aussi du déroulement des réunions. Quelque chose à reprocher ou bien se soit heurté à quelque chose, mais que nous puissions tous remercier Dieu de ce qu'il parle de manière si claire avec nous encore. Qui sommes-nous pour que la parole de Dieu, d'une manière fraîche, descendant du trône directement, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, telle qu'elle a été révélée, par la grâce de Dieu, soit adressée de cette manière à nous. Et c'est pour cette raison aussi l'exhortation aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, pas hier, alors que d'autres entendaient sa voix et ont entendu sa voix, et alors que d'autres ont entendu sa voix, mais aujourd'hui, si vous, alors que du haut des cieux, là où nous sommes réunis, du haut des cieux, directement, il parle avec nous, pensez pour un moment à la grâce que c'est que Dieu sépare son peuple de tous les peuples, les langues et les nations, l'appelle à sortir pour parler avec nous et pour nous amener à l'achèvement, pour que nous soyons préparés pour le jour glorieux du retour de notre Seigneur. Et que en aucun de nous, et ça je le pense sincèrement, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard ou alors être resté. Mais que alors que j'avais en 1966 fait mon vœu, alors que j'étais revenu des États-Unis et que j'avais commencé le ministère, j'ai fait dans le vœu au Seigneur la déclaration suivante. Bien-aimé Seigneur, accorde ta grâce que tous ceux qui écouteront ta parole de ma bouche soient prêts quand tu reviendras pour prendre les tiens. J'ai pas prêché et selon ce que les oreilles veulent entendre. J'ai une responsabilité devant Dieu. La parole avec véracité, je dois la prêcher. Pas seulement la prêcher, mais avec véracité. Et tous ceux qui sont de Dieu ressentiront cela et recevront cette parole et remercieront Dieu pour cela. Tous ceux qui veulent se laisser baptiser, qu'ils puissent maintenant venir devant. Et tous ceux qui veulent aller en Israël, qu'ils puissent, et après la prière finale, venir devant. S'il vous plaît, qui veut se laisser baptiser, qu'ils puissent maintenant venir devant. Le frère Rousse va encore vous adresser quelques parole et vous poser quelques questions. Déjà, pour les vêtements, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir tel que vous êtes. Ce qui est important, c'est que vos cœurs, que dans votre cœur, dans vos cœurs, se soit passé ce qui est comme condition pour le baptême. Donc, repentance, conversion, foi et consacrer votre vie à Dieu. Avoir consacré votre vie à Dieu. Venez devant, venez un peu plus devant, vers devant. Qui de vous parle allemand? Vous parlez le tchèque? Oh, le russe? Oh. Oui. Le français? Serbe, polonais, tchèque, russe. Maintenant, dites-moi un peu encore. Nous sommes ici réellement, internationalement réunis. Et vous êtes de... Vous êtes d'ici, oui, de Krefeld, oui. Ah, c'est merveilleux. Vous avez consacré votre vie au Seigneur. Vous croyez de tout votre cœur en Jésus-Christ, en tant que votre sauveur personnel. Oui, allemand, oui. Vous avez consacré votre vie à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frère, toi aussi. Tu as consacré ta vie au Seigneur. Et vous avez consacré votre vie au Seigneur. Vous pouvez faire l'alliance d'une bonne conscience avec Dieu. Soyez la bienvenue, frère. Sois la bienvenue, frère. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes une grande famille de tous les peuples, les langues et les nations. Le Seigneur appelle les derniers à sortir. Quelle grâce! que Jésus mourut où il a accompli le plein salut. Se tient là comme un lieu béni, comme lieu de paix et refuge sûr. Cela croit, il y a de la place pour toi. Cela croit, il y a encore de la place pour toi. C'est là que le salut a été reçu de des millions de personnes. Cela croit, il y a encore de la place.